Voilà, donc c'est à moi qui revient d'apporter la dernière intervention de cette journée. Et le comité d'organisation de cette journée a voulu terminer avec des réflexions un petit peu plus terre à terre. Donc le hasard dans la vie du croyant. Donc le sujet, vous le voyez devant les yeux, le hasard dans la vie du croyant et le discernement de la volonté de Dieu. Le petit dépliant de la journée dit ceci: le hasard n'est pas seulement un problème scientifique et philosophique, le croyant fait face dans sa vie à des situations qui défient l'idée d'un dessein divin qui s'accomplit. Et nous avons déjà l'absence d'un de nos orateurs de cette journée, qui est une illustration en quelque sorte de cela. Pourquoi? Alors, cette question, en fait, c'est un vaste sujet. Et je ne vais pas pouvoir, en quelques minutes, d'autant plus que je commence avec quelques minutes de retard, couvrir tout le sujet. Mais au bas mot, cela couvre l'évangélisation, le salut, l'élection. Est-ce que Dieu choisit des personnes pour être sauvées? L'édification et la perte du salut, est-ce que Dieu nous garde? La providence de Dieu dans la vie de tous les jours, mes choix, et comme le titre a dit, le discernement de la volonté de Dieu, et la prière. En fait, j'ai choisi d'aborder que deux de ces sujets, la providence de Dieu dans les événements de la vie et le discernement de la volonté de Dieu. On ne peut pas couvrir plus, mais c'est déjà énorme. Face à ces questions, il y a toute une gamme d'opinions de la part des croyants, parfois à cause de leur vécu personnel, de leur contexte, de leur tempérament, aussi à cause de la complexité des données bibliques et aussi l'influence des idéologies de vision du monde dans la société environnante. Mais je pense que la première question à bien mettre en avant, c'est qui est Dieu ? Et simplement répéter ce que vous avez déjà entendu ce matin, que Dieu est, aujourd'hui plutôt, que Dieu est souverain. Je vais lire simplement 4-5 versets, je me limite à cela. « Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. » Psaume 115, verset 3. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, 11. Proverbe 16, 1. L'homme, ça c'est la traduction du sommeur, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et le verset 33 qui a déjà été cité à plusieurs reprises, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et puis, le verset des versets. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a plusieurs modèles théologiques pour comprendre cette souveraineté, parce que toute la question, c'est face à la souveraineté de Dieu, quelle liberté humaine, on a déjà parlé de libre arbitre, par exemple. Mais sans pouvoir l'argumenter davantage, et je crois que je suis tout à fait en phase avec les autres intervenants de la journée, je plaide et j'adopte la position compatibiliste, c'est-à-dire que j'affirme avec les données bibliques que Dieu est souverain et que l'homme a une certaine liberté à définir, certes, mais que l'homme a une certaine liberté. Et la preuve même de cela, c'est l'appel à la responsabilité. Pourquoi des commandements qui sont multiples dans la Bible à tout niveau, pourquoi ces commandements, si l'homme n'a aucune liberté de choisir à les respecter ou non? Donc, je prends comme point de départ que c'est une position biblique d'accepter le compatibilisme. À partir de là, je fais un petit dessin piqué sur PowerPoint, en fait. C'est pas parfait, mais enfin, ça m'a permis de le faire hier soir. Où on voit toute la gamme. À votre gauche, le déisme. Donc, le déiste, qu'est-ce qu'il pense ? Que Dieu a créé le monde, y compris les lois de la nature, et en quelque sorte, après, il se retire et laisse faire. Ce qui fait que là, on met en avant la liberté humaine, mais au prix de la souveraineté de Dieu. Les êtres humains portent donc la responsabilité totale de leurs actions et des conséquences de leurs actions. On boit, on conduit, on provoque un accident. Il faut dire qu'il y a aussi une sorte de sous-modèle du déisme dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé de la théologie du process. Justement, j'allais en parler quand on a posé ces questions. On l'appelle aussi des fois le théisme ouvert. Ça veut dire que, à la différence du déisme, Dieu aime sa créature, il veut s'en occuper en quelque sorte. Dieu et l'homme sont en interaction, mais malgré tout, les êtres humains ont une liberté totale. Et que Dieu leur laisse cette liberté, et Dieu qui est limité, enfin, se limite en connaissance en quelque sorte, ce qui fait que lui-même découvre en même temps que celui qui pose l'acte ce qui va se passer. Mais à la différence du déisme classique, il essaie quand même d'intervenir un petit peu, quelque part, pour essayer de limiter les dégâts, pour essayer de conduire les choses, sachant qu'il est quand même le maître de l'univers. Mais il est ouvert, et c'est pour ça qu'on parle de théisme ouvert, il est ouvert aux décisions que prennent les êtres humains. Je ne vais pas en parler davantage, mais je pense que tout ce pan à votre gauche, théisme ouvert, on ne peut pas vraiment accepter. À droite, c'est tout le contraire, c'est le fatalisme, la doctrine qui affirme que tout arrive nécessairement, Dieu est le seul acteur au fond, il décide de tout, et si je prononce le mot suivant, vous allez comprendre de quoi il s'agit, Inch'Allah. Que la volonté de Dieu va se faire, si Dieu le veut, il n'y a aucune liberté humaine. Donc, à gauche, le déisme sacrifie la souveraineté de Dieu, et à droite, le fatalisme sacrifie la liberté humaine. Et entre les deux, il y a quelques modèles que l'on peut accepter sur le plan évangélique. Tous ne sont pas forcément d'accord sur la façon dont on va définir la liberté et la souveraineté de Dieu. Donc voilà les deux modèles que nous avons vus. Et au milieu, il y a un certain nombre d'autres modèles. Et le modèle qu'on appelle souvent calviniste. Donc là, Dieu est à l'origine de tout. Il est souverain, mais on fait la distinction entre ce que Dieu décide et ce qu'il peut permettre. Il a décrété un certain nombre de choses pour que l'histoire aboutisse comme lui, il a décidé. Et non seulement cela, mais les détails de l'histoire aussi, jusqu'au point que certains refuse quelque part, mais jusqu'au point de choisir les personnes qu'il va sauver. Mais les êtres humains ont quand même un certain espace de liberté, et là, je vais revenir sur certains termes utilisés aujourd'hui. Dans le modèle calviniste, on affirme généralement qu'il y a l'absence de contraintes externes à l'exécution d'une action. Et parfois, on appelle ça la liberté spontanée. Et c'est justement le contraire de cette liberté dont on a parlé, le libertarianisme, qui serait, excusez-moi de dire très vite, hein, mais on est en fin de journée, mais on peut le définir comme la liberté de faire des choix contraires, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean Calvin lui-même, j'ai trouvé une citation assez intéressante, on lui a posé la question s'il croyait au libre arbitre. Et sa réponse était « tout dépend ce qu'on veut dire par libre arbitre ». Donc, il s'est esquissé en quelque sorte. Mais en général, on va quand même dire que, contrairement à ces trois conditions de Leibniz dont Lydia a parlé, que la position calviniste n'accepterait pas le côté libertarien. Un autre modèle dont on parle de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le modèle moliniste. Alors, Molina était un théologien jésuite du XVIe siècle, et le facteur qu'il ajoute, c'est Dieu ne connaît pas uniquement l'avenir, mais tous les avenirs possibles, qu'il appelle des futuribles, donc des futurs possibles. Il les connaît tous. Et il décide, par cette, ce qu'on appelle science moyenne, parce que c'est la science entre ce qui doit se faire et ce qui se fera, donc cette science moyenne qui permet ou permettrait à Dieu de choisir le déroulement qui permet à ceux qu'il a choisis d'être en circonstance, de pouvoir dire oui. Donc, ils ont cette liberté même de dire oui à Dieu, mais ils ne l'auraient pas dit si Dieu ne les avait pas mis dans une circonstance qui leur permette de dire oui. Donc, on n'est toujours pas dans la pensée du libertarianisme. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses. C'est une pensée un peu à la mode. Certains le refuse. En tout cas, il ne s'agit pas d'un dogme, je pense que c'est plutôt une sorte d'expérience de pensée, comme on dit parfois dans le monde scientifique, pour essayer de comprendre comment on met ensemble la liberté et la humaine et la souveraineté de Dieu. Autre modèle qui est un peu dans le même sens, qui est moins connu, c'est le modèle priorité à la rédemption. C'est-à-dire que Dieu planifie des interventions, parfois de façon miraculeuse ou surnaturelle, pour faire aboutir son plan de salut pour ceux qu'il a décidé de sauver. Mais pour tout le reste, il laisse faire. Donc c'est le monde qui se déroule selon le cours normal des événements. Dieu n'intervient pas dans le déroulement de l'histoire en dehors du domaine de la rédemption. Et puis, encore un petit peu plus, plus loin dans ce sens-là, alors qu'en réalité, pour bien faire, j'aurais dû mettre ces quatre du milieu dans l'autre sens, du fatalisme vers le déisme, mais bon, à 23 heures de soir, quand on fait son PowerPoint... On n'y pense pas toujours, mais enfin, vous corrigerez vous de vous-même. Donc, dans l'arminianisme, les hommes sont libres de choisir ou non le salut en Jésus-Christ. Ça fait partie de la décision souveraine de Dieu et ne remet pas en question sa prescience. Il sait ce qui va se passer, mais dans ce sens, il ne sait pas ce qui doit se passer. Donc, Dieu n'a pas déterminé si tel ou tel individu serait sauvé ou non, mais il a prédestiné ceux qui sont sauvés à un bonheur éternel. Donc, qu'un individu soit sauvé ou non dépend uniquement de lui-même, et là, c'est beaucoup plus compatible avec cette pensée du libertarianisme. Voilà. Donc ça, c'est en essayant de voir les différents choix possibles. Cela dit, dans mon bureau, à la maison, j'ai une petite carte avec une citation biblique tirée de Romains que je laisse devant mes yeux continuellement en tant que pasteur. Je cite, « Je dois m'occuper de tous, des gens civilisés et ceux qui ne le sont pas, des gens instruits et des ignorants. » Et en quelque sorte, ce que l'on vient de voir avec tous ces modèles, j'invente un terme qui n'est pas tout à fait juste, mais vous allez comprendre dans le contexte de la journée, on est dans la théologie quantique. Et parfois, dans l'église locale, avec des personnes qui sont parfois des ignorants, si on veut, il faut une bonne théologie stable et newtonienne. Bon, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelque chose que les gens peuvent dire, voilà, ça, on peut vivre. Et donc, la deuxième partie de mon exposé va être quelques idées par rapport à ces deux termes, ces deux thèmes de, d'une part de la providence et d'autre part de la volonté de Dieu. La providence de Dieu, qu'est-ce que je dirais en fait sur le plan pastoral? Parce que là, on est devant le vécu. Qu'est-ce que je dis? La première chose que je dirais, c'est en quelque sorte, il y a deux visions du monde. Laquelle correspond vraiment à ta conviction? C'est ça la question que je poserai. Est-ce que c'est un monde sans Dieu? Un monde dans un univers, une vie dans un univers impersonnel, où tout ce qui arrive, arrive soit parce que je l'ai voulu, mon ambition, mes efforts, mon travail, mon intelligence, mon anticipation, mon courage, voire mon goût du risque, ou des choses qui arrivent, soit parce que je subis. Je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, au moment où la tuile tombe, dis-toi, comme on dit, ou au carrefour quand l'autre conducteur grille le feu rouge, ou dans un café où le terroriste décide de faire exploser une bombe. Je ne peux rien. Est-ce que c'est le monde que je vis en tant que chrétien? Ou est-ce que je vis dans un monde où Dieu est le Créateur, il nous connaît parfaitement, il veille sur tous les détails de notre vie, à tel point que, comme on l'a rappelé ce matin, il n'y a pas un moineau qui tombe par terre sur la volonté de votre Père, et même le nombre de cheveux sur notre tête sont comptés. Quel est le monde dans lequel on se trouve? Je pense qu'à partir du moment où on se convertit, dès sa conversion, c'est cette deuxième vision que l'on prend. Pourquoi je le dis? Parce que le Saint-Esprit nous pousse à dire « Abba, Père ». La première chose qu'on sait, hein, le premier mot du chrétien en quelque sorte, c'est « Abba, Père, j'ai un Père céleste qui s'occupe de moi ». Seulement, il faut approfondir cela dans la durée. Parce que d'abord, on ne saisit pas tout de suite toute la portée de cette vision, ni notre responsabilité. On n'a pas encore vécu face aux aléas de la vie. Le jeune converti pense que maintenant tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, rien ne peut m'arriver, j'ai un Père céleste. Et avec les années qui passent, on voit qu'il y a beaucoup plus de complications dans la vie que cela. On est aussi dans un monde qui s'y oppose. Nous nageons, comme on dit, à contre-courant. Et j'aime bien l'exhortation de Paul et Barnabas à Lystre, à Icone, quand ils disent, pour encourager les jeunes chrétiens, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, avec beaucoup de lucidité. Et puis, quatrième raison pour laquelle on a parfois du mal à vivre cela, c'est parce que il y a la pression autour de nous de ce qui est perçu comme normal. On va au travail. Il y a peu d'entreprises où on va se réunir pour prier pour la journée. Toute la journée, on vit, selon l'expression qui est peut-être un peu teintée d'anglicisme, un athéisme fonctionnel. Parce que dans les interactions avec les gens et le travail à faire, Dieu n'y est pour rien. Et s'il y est, c'est on le garde pour soi, on ne le vit pas. Donc, et cela peut déteindre un petit peu sur la vie par ailleurs. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir du mal et pourquoi il faut du temps à approfondir cette vision du monde où Dieu est présent et où sa providence nous couvre. Alors, le chrétien, il arrive, il subit, il vit une grosse difficulté, il me dit, voilà, Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et moi, avec ce que je viens de vivre, qu'est-ce que tu as à me dire? Et il y a beaucoup de sous-entendus avec ça. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Le chrétien, il me dit, ah, j'ai lu dans le psaume 34, hein, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. C'est dans la Bible. Parfois, il dit, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Si cela m'arrive, il y a un problème. Et à partir de Hébreux 12, est-ce que Dieu ne me punit pas par cet événement? Hein? Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et qu'est-ce que je dois faire entre résignation et révolte? Acceptation et action. Et cette action peut friser la manipulation. Devant la difficulté, combien de personnes peuvent penser, combien de chrétiens peuvent penser, Seigneur, si tu me sors de ce problème, alors je donnerai plus que la dîme tous les dimanches, j'assisterai à toutes les réunions, j'irai 4 chapitres de la Bible par jour, enfin, etc., etc. Une sorte de négociation avec Dieu par rapport à la difficulté. Là, je parle de choses que j'ai vécues face à des chrétiens. Et je crois qu'il y a une triple attitude que l'on peut avoir. La première attitude, c'est tout simplement la confiance. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et puis, ça c'est Matthieu 6, ou dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et ce verset continue avec des actions de grâce. Et en étant très terre à terre, malgré l'action, malgré l'événement qui nous arrive, de trouver des raisons d'être reconnaissant. On se plaint tellement de choses alors que nous avons tous beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Et puis, tout simplement, l'obéissance. Je trouve que cette obéissance, c'est par rapport, par exemple, à 2 Corinthiens 13, examinez vous-même, éprouvez-vous-même. Et je trouve que cette triple attitude doit être les caractéristiques de chaque chrétien à tout moment, qu'on soit dans la difficulté ou non, et surtout nous sort de ce terrible problème. Est-ce que cela m'arrive parce que Dieu est en train de me punir. Parce que dans tous les cas, que ce soit un événement qui arrive ou que ce soit le châtiment, c'est la confiance, c'est la reconnaissance et c'est l'obéissance. Donc, dans tous les cas, ces trois choses s'appliquent. Et puis, je termine avec je termine pas là. La finalité de Dieu dans tout ça. Romains 8, 29. Quel est le projet de Dieu ? 28, c'était « toute chose concourt au bien ». 29, c'est « parce que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils » ou « configurés » ou « conformes à l'image de son Fils ». Et quelque part, il ne faut pas oublier qu'il y a les choses qui nous arrivent, qui semblent parfois l'effet du hasard, et le projet de Dieu, c'est que l'on apprenne la confiance, la reconnaissance et l'obéissance, et en ressemblant à notre modèle parfait, qu'est Jésus-Christ. Et finalement, dans les 3 minutes qui me restent, mes choix, le discernement de la volonté de Dieu. Parce que dans un monde où tout semble, où on peut dire, mais où est le hasard dans tout ça, est-ce que j'ai un espace de liberté aussi. Et personnellement, j'ai toujours proposé aux personnes qui viennent me demander comment connaître la volonté de Dieu, quelque chose d'assez classique. Il y a la volonté secrète de Dieu, comme dans Deutéronome 29, des choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique. Il y a des choses cachées. Il y a un plan éternel de Dieu, selon Éphésiens 1, que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ensuite, il y a la volonté morale de Dieu, où on lit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Il continue à parler en matière à la fois de sanctification sur le plan sexuel et sur le plan des relations. Et le chapitre suivant, la volonté de Dieu, c'est que vous rendiez grâce en toutes choses. C'est la volonté morale. Et à l'intérieur de tout ça, quelle liberté de choix puis-je avoir ? Donc, ce petit schéma permet de voir qu'il y a autour de nous, que l'on ne connaît absolument pas, cette volonté souveraine de Dieu. À l'intérieur de cette volonté souveraine et à sa volonté morale, à nous de chercher à mettre en pratique ses commandements et vivre pour lui, et à l'intérieur, une sorte d'espace de liberté où nous prenons les décisions qui nous semblent les bonnes décisions à prendre. Autrement dit, je m'insurge dans ce sens-là contre la notion de la volonté de Dieu qui est une sorte de jeu de piste géant où on doit en quelque sorte trouver les petits indices cachés quelque part pour arriver au trésor. Mais ce n'est pas ça. On ne voit pas de trace de cela. Alors, face à cela, qu'est-ce que je proposerais ? 4 conseils. D'abord, de prier pour la sagesse. Jacques 1, verset 5 le dit très clairement. De demander la sagesse pour prendre les bonnes décisions. La sagesse selon Dieu. Et ce n'est pas le hasard qu'il y ait des livres sapientiaux dans la Bible, parce que ça nous apprend à avoir cette sagesse. La deuxième chose, c'est d'évaluer la situation et de prendre une décision. Donc nous avons quelques exemples dans le Nouveau Testament. Par exemple, Acte 15, où à plusieurs reprises, j'ai oublié de prendre ma Bible, hein, mais ce n'est pas grave, je connais un peu, je ne connais pas encore, à plusieurs reprises, ils disent « nous avons décidé », ou même « il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous ». Et dans d'autres lettres de Paul, à plusieurs reprises, « j'ai décidé de vous envoyer Timothée », enfin, etc. Donc, on évalue la situation et on essaie d'agir avec sagesse. Troisième chose, On laisse les résultats entre les mains de Dieu. Parfois, on prend une décision et on voit que ce n'est pas la bonne, et si on a la possibilité de revenir dessus, pourquoi pas? Parce que il y a le proverbe bien connu que « errare humanum est », c'est « perseverare diabolicum », donc ça veut dire c'est faire une erreur, c'est humain, persévérer, c'est diabolique. Donc, on a droit à l'erreur en quelque sorte, et Dieu ne nous rejette pas pour autant. Et la quatrième chose, on ne peut pas exclure des éléments surnaturels. Dieu peut aussi, j'en ai vécu quelques fois dans ma vie, il me semble. Par contre, Dieu n'a jamais promis cela. Donc, on ne va absolument pas se baser sur cela pour prendre la décision. Conclusion, le bon vieux psaume 23. Le Seigneur est mon berger, il me dirige. Merci.